en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Poursuivant ses travaux de réflexion sur le thème de la démocratie, thème choisi pour l'année 2010 par le président Jean Ménard, l'Académie des sciences morales et politiques, réunie en séance, a écouté le lundi 29 mars 2010 le juriste François Théré dans une communication intitulée « L'autorité en démocratie ». Canal Académie l'a enregistré pour vous, écoutez-le.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Ministre, que je suis heureux de voir parmi nous, s'il m'est possible d'un mot de répondre à votre intervention, à votre allocution, c'est pour vous dire que vous êtes un être tout à fait perfide. Car vous m'aviez demandé de parler de l'autorité et de la démocratie, mais quand j'ai vu le texte arriver, l'intitulé que vous aviez choisi, il était beaucoup plus pernicieux. Il s'agissait de l'autorité dans la démocratie. Et c'est dans ce « dans » que réside précisément la difficulté à laquelle je me suis trouvé par la force des choses et l'autorité du président conduit à essayer de vous entretenir. Alors je vais laisser de côté tout de suite la démocratie. Vous nous avez expliqué qu'on ne saurait ce que c'est qu'à la fin de l'année. Et comme nous ne sommes qu'à la fin du mois de mars, j'attends de mes savants confrères qu'ils m'apprennent un jour ce que c'est que la démocratie. Encore que je vais me rallier à une suggestion, ou du moins à une réalisation de la Société française de philosophie, qui a entendu il y a quelque temps Marcel Gauchet, lequel expliquait quelles étaient les composantes possibles de la démocratie. Alors, il y a une autonomie qui résulte même de l'action de ses membres. Il y a, en second lieu, une préoccupation de modernisme. La démocratie moderne n'est pas la démocratie antique. Troisièmement, il y a un principe représentatif. Et puis, il y a aussi l'éternel problème des relations entre la démocratie réelle et la démocratie officielle, ou du moins théorique, qui laisse aussi place à maintes communications. Je vais lire la mienne, je vais essayer de la lire, mais ne sachant pas lire, je suis dans l'embarras. Et je vais donc essayer de résumer brièvement, dans les 35 minutes, ou non, les 32 minutes qui me restent, l'essentiel de ce que je crois être intéressant pour nous. Mais c'est d'abord l'autorité. Qu'est-ce que c'est si l'on ne veut pas définir la démocratie? Au moins pourrait-on définir de l'autorité, parce que si je ne peux définir ni l'une ni l'autre, je n'aurai pas 35 minutes pour vous entretenir savamment et vous empêcher de vous endormir. De sorte que l'autorité peut être conçue de trois manières, c'est un mot polysémique, et il est évident qu'il est nécessaire d'en éliminer un certain nombre d'acceptions. La première, c'est celle qui verrait de l'autorité une institution. Et sur ce point, le mot d'autorité est parfois galvaudé. Nous en trouvons dans tous les azimuts. Nous voyons d'ailleurs qu'il y a des commissions qui deviennent des autorités qui deviennent des hautes autorités. On ne connaît pas de basses autorités, pas plus qu'il n'y a de bas fonctionnaires, mais il y a quand même, sous le titre des autorités, de nouvelles formules. J'avais préparé ma communication, mais c'était trop tard. Il est arrivé depuis une nouvelle autorité de contrôle prudentiel en matière d'assurance. Je vais donc aussi me conformer à des nécessités, à des exigences prudentielles, comme dit maintenant notre temps d'imprudence. Ce n'est pas non plus une valeur. L'autorité peut être conçue, et c'est un peu dans ce premier sens qu'on peut imaginer que l'autorité existe. C'est l'autorité qui s'attache à la valeur d'un individu, d'une personne, qui peut être un saint, un génie, même un général, même à l'époque un maréchal. Mais ceci, n'en parlons pas trop. Et il est de fait que ces personnages qui jalonnent l'histoire, qui l'animent et l'expliquent, peuvent être d'une manière ou d'une autre objet aussi d'analyse de l'autorité. Et puis, il y a une troisième considération, une troisième démarche qui peut peut-être essayer de nous montrer ce que c'est qu'une autorité, c'est celle qui a été développée d'ailleurs dans un écrit qui était non publié, qui était encore inédit, d'Alexandre Kojève, qui avait écrit sous l'occupation en 1942 un ouvrage sur l'autorité, ouvrage qui n'a été publié qu'en l'an de grâce 2004. Et Kojève disait que si l'on cherchait les purs bodes, les purs personnages dotés de l'autorité, les quatre types d'autorité qu'il décrit, il en voyait quatre. Il en voyait quatre, d'abord l'autorité du père, l'autorité des parents, des personnes âgées, dont la halde, son poids à protéger, la réputation dans les collèges, dans les livres scolaires, d'ailleurs. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Du père, des personnes, voire d'un mort, du fait de son testament, et les juristes le savent pertinemment, et qui ont bien compris ce que c'est que la continuation de la personne du défunt par ses héritiers, ne serait-ce que pour payer ses dettes. Il y a donc une autorité de celui qui a rédigé son testament et qui, là encore, relève de l'autorité du père. La seconde, c'est l'autorité du maître, dit Kojève. C'est le maître sur l'esclave, mais aussi du noble sur le vilain, du militaire sur le civil, bon général. C'est aussi le maître qui est en vous parmi nous. Eh bien, c'est le vainqueur sur le vaincu. C'est une deuxième catégorie, un deuxième profil. Le troisième, c'est le chef, le dux, le duce, le fureur, le leader. Et alors là, ce personnage, il va nous intéresser plus que les autres, bien que le quatrième ne soit pas totalement inconnu de nos réflexions, de nos préoccupations, c'est le juge. C'est le juge qui comporte d'ailleurs des variantes chez l'arbitre, le contrôleur, le censeur, le confesseur, l'homme juste et honnête, et le donneur de leçons de morale. Et ces quatre personnages, c'est évidemment le troisième qui nous intéresse le plus, et c'est à partir de là que l'on voit que dans la démocratie, l'autorité s'ordonne peut-être à partir du personnage en question, du chef, ou plutôt de celui qui est bien obligé quand même de vivre avec le juge, car le politique a besoin du juge, mais il en est jaloux. Et c'est cette relation de jalousie qui explique dans une large mesure les vicissitudes de ce qu'on appelle les trois pouvoirs, qui n'ont jamais été ce que l'on fait dire à Montesquieu dans l'Évangile selon saint Guillaume. Et par conséquent, s'il en est ainsi, je serais content d'en discuter avec vous, d'ailleurs, cher ami. Je provoque, c'est mon habitude. Hein, voilà. Et alors, je voudrais simplement, puisque le temps passe déjà bien vite, essayer, quand je parle de l'autorité dans la démocratie, de voir qu'elle a subi trois périodes, peut-être, dans l'histoire, l'essor, le recul et la nostalgie. C'est sur ces trois thèmes que les minutes qui me restent vous seront consacrées pour ma honte définitive. D'abord, l'essor. Et l'essor du concept d'autorité, il faut le rechercher assez loin. Il y a une naissance du concept. Il y a en second lieu une valeur de ce concept et en troisième lieu une construction autour de ce concept. Alors la valeur, eh bien, elle est à Rome. Elle est à Rome et nous en savons tous beaucoup de choses. L'auctoritas ne vient pas d'autoriser, contrairement à ce qu'on dit régulièrement, mais il y a des erreurs comme ça qui se prolongent indéfiniment, comme l'indépendance du parquet. Mais cela est un détail, et je dirais que l'auctoritas est date de l'empereur Auguste. Et le mot auctoritas vient de augere, augmenter. Et quand il s'est agi justement d'expliquer ce que c'était que le justitium, c'est-à-dire en quelque sorte l'article 16 de la Constitution au temps d'Auguste, eh bien c'était la possibilité justement de mettre entre parenthèses le droit existant et de considérer qu'il y avait lieu pour la personne qui avait une autorité suprême de se servir de celle-ci ou de celle-là pour mettre un terme à l'action habituelle du pouvoir politique. auctoritas est augmenté. Et c'est en quoi la potestas n'est pas l'auctoritas, le pouvoir. C'est dans la démocratie le pouvoir des trois pouvoirs ou des deux pouvoirs et demi, plus exactement, et de telle manière que ce pouvoir n'est pas l'autorité. L'autorité est quelque chose qui supprime le pouvoir quand il dévie et qui le rétablit quand il est en période de crise. C'est cela, l'auctoritas, c'est cela que Bobson, qu'un grand juriste du XXe siècle, André Magdelin, que bien d'autres encore, et surtout un auteur italien, Agobben, a parfaitement décrit. Et alors, on peut penser qu'au-delà de ce concept qui se développe, qui explique le nom d'Auguste, Auguste vient de Augere. Auguste, c'est celui qui a l'autorité, le pouvoir. C'est le populus romanus. Ce n'est pas véritablement le princeps, le prince qui est Auguste, qui ajoute, mais qui, sans qui, le pouvoir se dégrade. La seconde préoccupation, la seconde étape, c'est celle qui considère qu'il y a dans cette autorité qui s'ajoute une valeur supplémentaire, une valeur qui ne se confond, disent les auteurs, ni avec le pouvoir, ni avec la persuasion. Et c'est là peut-être que déjà nous touchons du doigt l'importance du concept d'autorité, car l'on peut dire que l'autorité requiert toujours l'obéissance. Mais justement, en la prenant comme une forme de pouvoir ou de violence, ce n'est plus l'autorité. Mais d'autre part aussi, ce n'est pas une persuasion, l'autorité. L'autorité n'est ni un pouvoir, ni une persuasion, car s'ils étaient une persuasion, cela signifierait que le discours, le dialogue, se situe entre personnes à égal niveau de discussion, ce qui serait peut-être le cas dans la démocratie, mais l'autorité se conjugue non pas avec la persuasion du raisonnement et même avec la conviction de la logique, mais tout simplement avec cette idée et qu'il y a entre la persuasion et l'ordre un autre domaine de valeur qui explique et justifie la persistance dans un certain domaine, dans un certain milieu, dans un certain système politique de l'autorité. Enfin, de cela résulte aussi un troisième élément. Il y a le concept, il y a la valeur, et puis il y a la construction. Et la construction historique de l'autorité dans l'existence des démocraties démontre bien qu'elle ne peut pas exister à l'état pur, mais que le pouvoir non plus ne peut pas exister à l'état pur, et qu'ils ont besoin de coexister. C'est la coopération, justement, avec le pouvoir qui explique les vicissitudes, les sorts, les difficultés, parfois même le déclin de l'idée même d'autorité. Voilà la construction. Elle donne lieu à nombre de discussions sur les types de coopération. Ce n'est pas, hélas, de cela qu'il faut essentiellement parler aujourd'hui, en notre temps de basse république, comme il y avait un bas empire. Le recul est vrai. Le recul de ce concept de l'autorité dans la démocratie, il se manifeste de plusieurs manières. De plusieurs manières, et on dirait qu'il faut ici interroger d'abord les causes, et puis les effets, et puis en quelque sorte tirer un peu de ce recul, non seulement de l'autorité, mais des autorités. Car lorsque, par la loi du 10 juillet 1970, on a substitué l'autorité parentale à la puissance paternelle, ce fut un changement considérable, un changement dans les mots. Et évidemment, l'autorité paternelle, maternelle, le tiers qui intervient dans les familles recomposées comportent sur l'autorité parentale quelques éléments nouveaux comme tout le reste. Nous savons bien que la nouvelle cuisine est plutôt crue et la nouvelle famille un peu cuite. Et quoi qu'il en soit, il est évident que dans cet ordre d'idées, le recul de l'autorité a trouvé son explication dans deux causes. La première cause est tout ce dont je parle. Là, je m'en suis inspiré beaucoup des réflexions profondes d'Anna Arendt sur le recul de l'autorité dans ses écrits, surtout manifestés par les événements politiques de l'entre-deux-guerres. Le premier recul, à coup sûr, c'est le recul de la tradition, le recul de la puissance du passé dans la réflexion. Non point qu'il n'y ait pas des résurgences, qu'il n'y ait pas des éclipses et des renaissances d'institutions juridiques dans toute l'histoire. Ce qu'on raconte aujourd'hui sur les crises de la famille, mais relisons les écrits sur le directoire, la manière dont Napoléon a essayé de résoudre, Bonaparte a essayé de résoudre les problèmes, mais il y avait les problèmes de la famille, il y avait les problèmes dans les entreprises, entre guillemets, il y avait des problèmes dans tous les sens. Il y a des éternels retours de l'autorité ou de l'anarchie. La première cause, donc, c'est le culte du passé dans le contexte essentiellement politique de l'époque. Le passé était sanctifié par la tradition. Mais maintenant, tout doit être nouveau. Et par conséquent, on voit bien que ce passé, parce qu'il a cessé d'être le fondement même d'un système aussi politique, a été à la cause et à l'origine par son recul. D'un recul de l'autorité. La seconde cause que examine Hannah Arendt avec une grande pertinence, c'est le recul de la religion. Il est certain que le recul de la religion a entraîné à l'évidence un recul de l'autorité. Comprenons bien que la mise en doute de la vérité religieuse n'a pas cessé de caractériser l'époque moderne depuis des siècles, certainement. Mais cela vaut aussi pour les croyants comme pour les incroyants, bien entendu. Et il faut, je ne sais pas si je vais oser le dire, il faut aussi, dans cette remise en cause, dans cette réflexion profonde, s'adresser, Monsieur le Président, à Blaise Pascal, ou même à un certain Kierkegaard, qui a aussi relancé aussi et prolongé ce courant. C'est l'évidence. Alors, les effets aussi de ce recul de l'autoritarisme tiennent aussi à ce que, durant cette période de l'entre-deux-guerres, à l'époque où Hannah Arendt aussi avait fait ses expériences, il y avait tout un courant de pensée qui voulait ressusciter l'autorité à travers l'autoritarisme des totalitarismes de l'époque, et que ce qu'a écrit Carl Schmitt en la matière est à cet égard significatif. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est important de voir que ces effets de la crise de l'autorité, du recul de l'autorité, on pourrait les envisager dans multiples domaines. Et je ne vais pas les tracer tous, parce qu'il me reste des trous de 13 minutes. Et par conséquent, je voudrais simplement montrer qu'il y a un domaine dans lequel, à l'évidence, ce recul s'est manifesté, c'est dans l'essor des réflexions sur la désobéissance. Je m'en tiendrai là, la désobéissance civique est devenue sujet de réflexion. Et on n'a pas attendu José Bové pour s'interroger sur ce point. Car enfin, laissons Antigone de son côté. Elle s'occupait des lois divines, elle ne s'occupait pas des lois humaines. Mais enfin, quand même, on voit bien qu'ici, la pensée américaine est importante dans notre compréhension du système de l'obéissance et de la désobéissance civile. C'est évidemment toujours à ces études, je constate qu'il y a nombre d'études, de thèses à l'heure actuelle à Nanterre, mais ce n'est pas uniquement parce que c'est à Nanterre qu'il y a des thèses sur la désobéissance civile, il y en a un petit peu partout. Et sans doute est-ce une réflexion fondamentale qui évidemment revient toujours à Thoreau, à la guerre de sécession, à Thoreau qui s'était élevé, qui ne voulait plus payer l'impôt. Manquait en Vendée après la guerre, à l'époque de l'école libre aussi, il y a eu des petits problèmes sur ce point. Mais ça s'est terminé, pas trop mal. Mais je dirais, c'est Thoreau, mais c'est Gandhi aussi. C'est aussi Martin Luther King. C'est aussi toute une courant de pensée philosophique qui a de plus en plus mis en relief la nécessité de s'interroger sur la désobéissance civile. Et ces manifestations, c'est Rawls, c'est Dworkin, c'est Hannah Arendt, bien sûr, c'est Walzer, c'est Habermas. Il y a donc tout un courant qui affecte profondément le comportement des praticiens. Et au fond, on voit bien que même Hannah Arendt écrit « La pratique de la désobéissance civique n'est pas autre chose que la forme la plus récente de l'association volontaire ». et de quoi dire que la grève des fonctionnaires a été un progrès. Elle était interdite, mais comme elle a été signe de désobéissance, elle est devenue un moyen, dit-on, du progrès dans la société contemporaine. Et l'on voit que, cette fois, le débat peut être orienté aussi sur ce qu'a été la résistance. Car la résistance, justement, pendant les années sombres de l'occupation, a dû donner lieu à des réflexions fondamentales sur la distinction entre la légalité et la légitimité. Et il y aurait beaucoup à dire, à reprendre, en lisant le recueil d'Allos, qui n'est malheureusement pas illustré, sur la loi de rétablissement, l'ordonnance portant rétablissement de la légalité républicaine. Dans ce mot de rétablissement, il y a toute une philosophie qui mériterait d'être mise en relation avec les discussions qui nous occupent un instant sur la désobéissance. Et après tout, si le Conseil constitutionnel continue dans cette tâche admirable, et je tiens à saluer la présence d'un ancien président et d'un autre qui aurait dû l'être, je pense qu'il est intéressant de voir qu'il y a dans la Constitution, dans le bloc de constitutionnalité qui nous est cher, mais il y a une disposition qui prévoit le droit de résistance à l'oppression. Ce droit n'a pas encore été découvert par un président de Conseil constitutionnel en mal de promotion de Légion d'honneur, mais après tout, il serait concevable que la chose vienne à l'actualité en attendant qu'un développement du référendum populaire puisse mettre, rappeler à l'ordre, une institution fondamentale que nous admirons tous ici avec respect. Et la résistance à l'oppression, c'est la poursuite, c'est la finalité extrême, en quelque sorte, de la désobéissance de Thoreau. Et Madame Michèle Alliot-Marie, préoccupée par une réforme, qui peut-être va suivre celle de la taxe carbone. Nous n'en savons rien encore. Mais Madame Alliot-Marie voulait encore satisfaire un peu, essayer d'accomplir la tâche qu'on lui demandait. Ah, finalement, il y a quelques jours, a dit pour affirmer l'indépendance du parquet qu'il pourrait y avoir dans le texte lui-même un devoir de désobéissance du parquet aux ordres. Devoir de désobéissance. Et alors, ce devoir de désobéissance, j'ai mes textes, j'ai mes sources, messieurs, ne contestez pas. Eh bien, je dis qu'il est temps de progresser. Il est temps d'admettre un devoir de désobéissance au devoir de désobéissance. Parce que, franchement, où allons-nous dans cette affaire qui, de toute évidence, peut nous conduire assez loin. Et alors, que dire de tout cela? Que dire? Eh bien, c'est au fond, simplement, non pas seulement ce recul, c'est les réflexions qu'il peut susciter, ce recul. Et je dirais que c'est peut-être aussi cette idée que et la liberté et l'égalité suivent des pentes qui, peut-être l'une comme l'autre, quand pour une fois la liberté et l'égalité se retrouvent, félicitons-nous de cela, peuvent être tout à fait coalisées contre l'autorité et sa persistance. Et cela, on peut s'interroger sur une espèce d'anti-juridisme obsessionnel de notre époque, mais je ne veux pas défendre ma paroisse, et sur ce point, je préférerais citer des philosophes qui, a priori, ne seraient pas tellement hostiles à une abolition de l'autorité. C'est par exemple un certain Jean-Paul Sartre qui observe ceci. L'antimonde que secrète l'imagination est sans consistance et sans point d'appui. L'opposition veut détruire le pouvoir, elle se meut dans le vide et la liberté du vide qu'elle engendre ne peut être qu'une liberté libertaire. Sartre, l'imaginaire. Page 23. Mais ce n'est pas seulement donc par ces excès de la liberté, mais c'est aussi par une incompréhension de l'égalité que nous voyons ici les phénomènes se manifester. Et alors, c'est la nostalgie de notre temps. Cette nostalgie qui prend trois formes. Première nostalgie, la nostalgie de l'autorité de la loi. cette nostalgie est certainement liée à un scepticisme sur l'autorité de celle-ci. Non pas, il faut cesser d'entendre cela, de répéter cela, non pas qu'il y ait trop de lois, l'inflation des lois. Ah, mais il n'y a pas de jour où on ne nous raconte pas cette inflation, mais elle existe depuis la nuit des temps. Elle existe depuis Démosthène, depuis Tacite, depuis Montaigne, depuis Robespierre. Cela n'est pas important. Ce qui est l'atteinte à l'autorité de la loi, ce n'est pas son pullulement, c'est son instabilité. Car les nappes successives de lois qui peuvent être appliquées compliquent et altèrent alors, elles, l'autorité de la loi. D'autant plus qu'il y a un perpétuel débat sur le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Jean Foyer l'a écrit superbement dans un numéro de la revue Pouvoir, « La justice, un pouvoir refusé ». Et pour expliquer cela, il a développé toute une série de thèmes que je ne peux pas ici ajouter à mon propos. Et c'est autre chose, bien entendu. La seconde question concerne la nostalgie d'une communication satisfaisante. Et là encore, que voit-on ? On voit se développer cette idée que la société civile existe. Nous avons entendu une communication de premier ordre. Je n'ai jamais rencontré un membre de la société civile en tant que tel. Ce qui exprime la société civile à travers peut-être le droit de l'environnement. Oui, c'est encore un mystère. Un rêve, ou un cauchemar, d'ailleurs. Et c'est pourquoi, dans cela, pour l'expliquer, il y a une autorité en recul, une nostalgie de la communication. Car notre temps a besoin d'une plus grande communication qui se manifestait autrement et qui exprimait une espèce de consensus d'autorité qui, peut-être, guidait l'autorité elle-même. Et c'est pourquoi l'on voit se développer, bien sûr, je ne veux pas entrer dans un débat, il ne s'agit pas de mon texte lui-même qui sera diffusé, il s'agit quand même d'une interrogation sur ce qui tient lieu d'autorité aujourd'hui. Qu'est-ce qui est une autorité dans notre société ? Eh bien, c'est au fond, quelle que soit l'immense qualité de ses membres, ce sont au fond les médias. Ce sont les médias qui ont une autorité une autorité qui n'est ni la potestas, ni l'auctoritas, mais qui est la potentia. Et cette potentia avait été aussi analysée au temps de Rome. La liberté dont elle se réclame, et que Chateaubriand a rappelé dans un texte sempiternellement cité en fin de parcours. Mais c'est surtout, non pas le quatrième pouvoir, cher ami, nous en parlions tout à l'heure, bien sûr, ce n'est pas un quatrième pouvoir, mais c'est une potentia, c'est-à-dire autre chose, c'est quelque chose d'influence, ce n'est pas... L'on pourrait dire qu'au fond, si l'on revenait aux analyses des auteurs romains, on dirait que peut-être cette potentia qui avait été connue à Rome, le mot potentia, est appréhendé dans une vision exempte de juridicité. Et lorsqu'il est fait état de la potentia d'une épouse, par Virgile, de la potentia d'un écrivain, par Salluste et par Tacite, de la potentia d'un avocat, par Cicéron, c'est de ce domaine-là que relève, en quelque sorte, cette autorité. Cette autorité qui, peut-être, se manifeste par une puissance abusive. Ce qui caractérisa Verres, c'est la potentia. Et c'est sur ce point encore qu'on peut considérer que là se situe une distinction et une discussion difficile entre une influence et une autorité. Une autorité dotée d'influence. Mais une influence ne suffit pas à fonder une autorité. Et il faut dire que, par les temps qui courent, l'abrutissement des lecteurs par des palmarès, et par des sondages sont une forme de reconstitution implicite de l'autorité qui sera le premier dans le palmarès, qui sera le premier dans les sondages. C'est une forme de l'autorité perdue. Et par conséquent, là encore, il y a un auteur qui a écrit il y a quelques années un ouvrage très remarquable, me semble-t-il, mais il est fort discuté, c'est Régis Debray. Car lisons l'emprise de Régis Debray, et qui atteste bien cette influence. L'autorité, écrit-il, est inéliminable, et qui en renverse une, en inaugure une autre, non protocolaire et dépourvue des prestiges de l'ancien et de la tradition. Eh bien, c'est la même chose. Soutenir cela, c'est encore s'interroger sur la force des opinions. Qu'est-ce qui est important? C'est l'opinion. Qu'est-ce qui forme l'opinion? Et par voie de conséquence, l'autorité. À l'évidence, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais j'en arrive pour finir à l'essentiel. Si l'autorité est morte, si elle est en recul, c'est presque exclusivement parce qu'elle est morte dans l'éducation. Car j'en reviens à la philosophie antique qui ordonnait quand même beaucoup de ses pensées sur l'éducation. Et je renvoie alors à deux auteurs. Un auteur récent sur l'esprit de l'éducation, Madame Marguerite Léna, philosophe de son état, qui a écrit sur l'esprit de l'éducation et qui montre bien ceci. Il n'est guère sain qu'un pouvoir politique prenne les attributs de la paternité pour réclamer l'obéissance et l'affection des citoyens. Il confère du même coup au gouverner ceux de l'enfance et change son autorité en tutelle. À l'inverse, il n'est pas plus légitime de transposer les catégories du rapport politique au domaine de l'éducation, car soit pour durcir la relation éducative, soit au contraire pour l'aligner sur le modèle d'une démocratie égalitaire. Et c'est là que l'on voit aussi que l'égalité morte dans le secondaire, après l'avoir été dans le supérieur, étant une relation d'inégalité par l'éducation même qu'elle exige, est à l'origine peut-être des difficultés de notre temps. C'est un temps non seulement peut-être d'excès de la liberté qui conduit à ce que je me proposerais d'appeler pour prendre, si vous voulez, le dialecte du Poitou charmante, la libertude. C'est cela qui peut être aussi, je ne peux pas dire le libertarisme, l'anarchisme, non, la libertude, peut-être que c'est un concept qui mériterait d'être soumis à la réflexion d'un étudiant candidat à l'agrégation en deux parties, deux sous-parties et une belle introduction. Mais ceci étant aussi, c'est le retour à la philosophie antique qui aujourd'hui peut nous occuper. Et ceci nous mène alors à une réflexion finale, quelques mots pour finir, que nous ne devons pas désespérer dans notre recherche de l'autorité perdue. Je vous remercie. 37 minutes.
Vous venez d'entendre François Théré de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous pouvez retrouver l'intégralité du texte de sa communication sur le site de l'Académie asmp.fr.